C'est une mise en garde qui fait froid dans le dos. Une semaine après l'essai d'un nouveau missile thermonucléaire à très longue portée, la Russie brandit la menace d'une troisième guerre mondiale.
Le danger est grave. Il est réel, on ne peut pas le sous-estimer.
Cette déclaration intervient alors que les États-Unis ont réuni aujourd'hui une quarantaine de pays sur la base américaine de Ramstein, en Allemagne. Objectif, armer davantage l'Ukraine face à l'envahisseur russe. Berlin, par exemple, livrera prochainement des chars spécialisés dans la défense anti-aérienne.
Nous avons décidé de soutenir l'Ukraine avec des systèmes anti-aériens de type Guépard, dont Kiev a besoin pour sécuriser son espace aérien depuis le sol.
La guerre en Ukraine est-elle en train de relancer la course à l'armement? Les dépenses militaires mondiales n'ont jamais été aussi élevées, selon le rapport publié hier à Stockholm par l'Institut international de recherche sur la paix.
En 2021, les dépenses militaires ont augmenté dans le monde pour la 7e année consécutive pour atteindre les 2100 milliards de dollars. C'est le chiffre le plus élevé que nous ayons jamais enregistré, un record.
Les États-Unis, la Chine et l'Inde figurent dans le trio de tête des pays les plus dépensiers. Et ils n'ont pas attendu la guerre en Ukraine. Depuis plusieurs années déjà, les grandes puissances et celles qui aspirent à l'être développent leur arsenal militaire. Hier encore, lors d'un défilé géant, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré vouloir renforcer son armement nucléaire. Alors les nombreux traités de non-prolifération des armes sont-ils inefficaces? Comment expliquer cette course en avant des dépenses militaires? Surarmés, le monde est-il aujourd'hui plus sûr ou plus dangereux?
Trois invités pour débattre ce soir. Bertrand Badie, bonsoir Bertrand Badie. Vous êtes professeur de relations internationales à Sciences Po Paris. Votre essai « Les puissances mondialisées, repenser la sécurité internationale » est paru chez Odile Jacob. Selon vous, il faut bien réfléchir avant de réarmer massivement l'Ukraine car il se pourrait que les négociations soient plus déterminantes et efficaces que les armes. À côté de vous, Isabelle Dufour, bonsoir. Vous êtes directrice des études à Eurocrise, une agence d'intelligence stratégique. Selon vous, l'armement est l'outil de puissance le plus visible. Et jusque-là, notre politique vis-à-vis de la Russie a manqué de fermeté. On débattra et on développera, bien sûr, au cours de notre discussion. Et à côté de vous, Émeric Eluin, qui ne sera peut-être pas tout à fait d'accord avec vous deux, chargé de plaidoirie armes à Amnesty International France, chargé de plaidoyer, pardon. Vous avez coécrit le livre « Vente d'armes, une honte française » paru aux éditions Le Passager clandestin et vous estimez que, offensive ou défensive, une arme reste une arme. Elle est conçue avant tout pour éliminer, donc tuer. Et on démarre ce débat, Frédéric, avec le chiffre du jour.
3,4 milliards de dollars, c'est le montant total de l'aide militaire accordée par les États-Unis à l'Ukraine après l'annonce hier d'une enveloppe supplémentaire de 700 millions de dollars. Bertrand Badie, la guerre en Ukraine provoque un réarmement mondial ou elle accélère une tendance qui avait déjà lieu depuis des années?
Eh bien, c'est une confrontation de deux logiques. Une logique ancienne, bien connue depuis des siècles, qui consiste à dire, eh bien, l'ordre du monde dépend du rapport de puissance. Et puis une logique nouvelle qui considère que depuis un certain temps, la puissance n'a pas forcément les résultats escomptés. Regardez l'Afghanistan, regardez le Vietnam bien avant, regardez l'Irak.
La puissance militaire en tout cas.
La puissance militaire. Jusqu'à la chute du mur, ce n'était pas compliqué pour éviter la guerre permanente. Il fallait que je sois armé à un niveau égal de ma voisine ou de mon voisin.
Et après ?
Et après, on s'est aperçu, premièrement, que la puissance n'était pas décisive, et surtout, on s'est aperçu que les guerres nouvelles n'étaient plus des affrontements entre puissances égales, mais entre puissances déséquilibrées. Et du coup, la fonction de l'armement s'en est trouvée complètement transformée. Et transformée, en plus, dans un contexte...
Après, on veut la réaction de...
Particulier, juste cette phrase, dans un contexte très particulier... C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de victoire décisive. Il n'y a plus de bataille décisive. Vous avez remarqué que depuis 1945, on ne gagne plus les guerres. Et que par conséquent, si on ne peut pas se fier au sort des armes, eh bien, on est obligé d'essayer
la
autre
diplomatie.
Chose.
Voilà. Isabelle Dufour, vous êtes d'accord avec cette analyse?
Partiellement seulement. Il y a des guerres qui peuvent être gagnées. La Syrie. Le régime de Bachar al-Assad en 2013-2014 jusqu'à l'intervention de la Russie en 2015, on disait que ça serait compliqué pour lui de gagner la guerre, etc. Intervention de la Russie, intervention très brutale, méthode brutale des deux, des Syriens et des Russes. Et de fait, Bachar al-Assad est toujours au pouvoir.
Là, sur la guerre en Ukraine, on voit les effets, y compris jusqu'à l'Allemagne, qui décide de réarmer, qui va investir 100 milliards d'euros dans son armée. C'est un geste qui va totalement à rebours de la philosophie de ces dernières années. Selon vous, ça marque le début d'un réarmement plus global de l'Europe et du monde ?
Ah oui, c'est très probable. Enfin, c'est même certain, au vu des chiffres que vous citez. En fait, l'Europe avait commencé à regarder du côté de la Russie en 2008, mais les leçons, quand la Russie avait annexé les deux provinces géorgiennes, mais les leçons n'avaient pas été vraiment tirées, enfin, pas dans tous les pays, pas pareillement. En 2014, avec l'annexion de la Crimée, les budgets de défense ont commencé vraiment à augmenter dans certains pays.
Émeric Alluin, il faut rappeler que l'OTAN demande à chacun de ses membres de dépenser 2% de sa richesse intérieure pour l'armement. C'est une course sans fin ou c'est aussi, pourquoi pas, une clause qui permet la sécurité globale ?
Alors, indubitablement, dans la logique de l'OTAN, c'est un gage de sécurité collective. Mm-hmm. Mais si on rapporte ça à la tendance mondiale de dépenses d'armement accélérées, croissantes, depuis ces dernières années, on voit une augmentation continue.
Et depuis 2014.
Et depuis 2014, tout à fait, mm-hmm. et même un peu avant. Mm-hmm. On est loin des années 90 où on avait enregistré une baisse des dépenses militaires considérable. Aujourd'hui, il y a effectivement une vraie inquiétude quand même vis-à-vis de ces dépenses d'armement faramineuses. Moi, je rappelle que la Charte des Nations Unies, il faut quand même le rappeler.
Rappelez-le.
C'est l'article 26 qui dit pour assurer la paix et la sécurité internationale, vous accorderez le moins de ressources humaines et économiques à l'armement. Donc oui, aujourd'hui, quand on voit un monde qui ne cesse d'accroître ses dépenses d'armement, on ne peut que s'inquiéter sur les risques encourus mm-hmm. ensuite en termes de stabilité régionale, de respect du droit international dans l'utilisation des équipements qui sont fournis, etc. Donc il y a une inquiétude à avoir.
Les États-Unis, c'est 38% des dépenses mondiales d'armement, c'est plus d'un tiers, ce chiffre est tout à fait hallucinant. Pourquoi les États-Unis investissent autant ? Alors, il y a le matériel militaire de base, mais il y a aussi la recherche, le développement et les armes de demain, entre guillemets.
Mais il y a toutes les raisons que vous venez de citer. Déjà, la première, c'est qu'elle en a les moyens. Donc c'est la première économie mondiale, donc elle a les moyens de dépenser beaucoup pour son armement. Et puis pour elle, l'outil militaire, c'est aussi un outil de puissance, mais aussi un outil d'influence vis-à-vis de ses alliés, pour conserver une certaine prééminence en Europe, en Asie également.
Bertrand Badie,
réaction ? Oui, je crois que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles on vient à s'armer et à se surarmer.
Oui.
Le premier élément, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure, c'est la croyance en ce dogme qui aujourd'hui est de plus en plus contestable de la nécessité d'un équilibre de puissance. La deuxième raison, c'est l'ostentation. C'est-à-dire la dimension symbolique de la chose. On montre effectivement que en ayant des armes, on est une puissance. Mmh. Regardez la Corée du Nord, regardez l'Arabie Saoudite.
Avec les défilés militaires, d'ailleurs.
Mmh. Avec les défilés militaires. On pourrait citer l'anecdote de ce dictateur qui est abonné à tous ces catalogues d'armements et commande des armements alors qu'ils ne sont pas encore totalement expérimentés. Donc, il y a un aspect ostentatoire. Il y a aussi une fonction, je dirais, d'asphyxie. Asphyxier l'autre, j'ai plus de moyens économiques que l'autre, donc je vais me surarmer, ce qui va l'obliger à me suivre, il va attraper un point de côté en me courant après. Maintenant, le vrai problème, c'est que il y a des moments où il y a la confiance, et il y a des moments où on l'a pas. Et à partir du moment où on est dans des situations de crise de confiance, effectivement, le surarmement augmente. Je voudrais juste dire à propos de la Syrie, je suis pas sûr que ce soit une victoire. Quand on voit dans quel état est la Syrie, quand on voit qu'il y a toujours des poches de résistance et combien importantes, c'est-à-dire l'ennemi n'a pas, au sens clausewitzien du terme, été terrassé. Un ennemi terrassé depuis 1945, on n'en trouve pas, c'est quand même un signe de quelque chose.
Alors, on va s'intéresser à ceux qui se frottent les mains depuis le début de la guerre en Ukraine, les marchands d'armes évidemment. Voici le portrait de Patrice Kane, c'est le PDG de Thales.
Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher Patrice Kane, j'ai vos radios sous les yeux, c'est sans pitié. Vous êtes depuis 2014 le PDG de Thales, entreprise détenue en majorité par l'État et Dassault, active dans l'aérospatial, les transports, la sécurité, avec comme anise des systèmes de reconnaissance faciale pour toute mairie chatouillée par le rêve orwellien, et surtout la défense, gavée d'intelligence artificielle, qui compte pour 50% du chiffre. Au catalogue, on trouve radar, drones, logiciels, mais aussi fusils d'assaut et missiles. Eh bien, on essaye d'augmenter le panier moyen du client. Un petit café gourmand, un petit Dijon.
Votre père était déjà patron d'une filiale de l'Office français d'exportation d'armement. Et après de prestigieuses écoles privées de l'Ouest parisien, Polytechnique, l'école des mines, puis un début de carrière dans le grand vortex capitaliste, pharmacie, banque, une pause pipi au cabinet de Laurent Fabius en 2000, vous avez choisi le job de marchand de canon.
Disons que je suis un enfant de la balle. Calibre 5,56.
Si le mortel Covid a freiné vos ventes de systèmes pour avions civils, la mortelle guerre en Ukraine a dopé votre cours de bourse. Plus 40% à la mi-avril, bravo! Mais vous pourriez faire mieux sans ces fichus critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui évaluent l'éthique d'un investissement. Et donc vous pénalise.
In terms of ESG, we do think that we bring a key contribution to make the world safer, greener and more inclusive.
Vendredi, un conseiller du président Zelensky a relativisé ce cadeau à l'humanité. Une famille tentait de s'échapper, mais a été tuée par des meurtriers russes avec, et c'est prouvé, des armes françaises vendues en contournement des sanctions de 2015. Vous répondez qu'aucun contrat russe n'a été signé depuis 2014, ni aucune livraison en 2022. Surtout, comme si on allait mettre sur le marché des produits dangereux pour les familles. Mon cher Patrice, si la bêtise naturelle permet de tirer sur des enfants, l'intelligence artificielle pourrait peut-être l'empêcher. Et ce serait bon pour vos critères ESG. Ah, si.
Chapeau Thibault Nolte, Frédéric.
Et le poids économique de l'industrie de l'armement. La France est le troisième exportateur mondial, Émeric Eluin. Il faut noter qu'il y a 4000 entreprises en France qui vivent de cette industrie. Cela représente environ 200 000 salariés.
Oui, alors je crois qu'il faut être très clair. L'enjeu, ce n'est pas l'emploi ici. L'enjeu, c'est ce que décide le gouvernement français. En France, c'est le gouvernement, enfin le pouvoir exécutif, le Premier ministre, qui délivre les licences d'exportation. Les licences d'exportation, ce sont les autorisations de vente d'armes. Les industriels font la demande au gouvernement. Il y a une évaluation qui est faite par un comité interministériel, dont je vous épargnerai le nom, et un Premier ministre qui délivre les licences d'exportation.
On a le droit d'exporter dans tel pays ou
pas ? On a le droit d'exporter à partir du moment où on a une dérogation. Le principe, c'est la prohibition. La prohibition n'empêche pas qu'on a chaque mois des milliers de licences qui sont délivrées. Donc l'enjeu, ce n'est pas l'emploi. Oui, l'emploi, l'industrie de l'armement en crée, évidemment. L'enjeu, c'est la responsabilité de l'État, premièrement. Au nom de quoi, sur la base de quels critères à l'exportation, risque de violation des droits de l'homme, risque de violation des droits d'orientation humanitaire, j'autorise ou non une exportation. Peu importe les emplois créés, peu importe les avantages économiques qui sont liés à ces ventes d'armes. Ce sont les considérations liées au droit international qui l'emportent. Ensuite, les industriels de l'armement ont une responsabilité. Nous avons parlé dans ce petit reportage des critères ESG. Il faut quand même rappeler que les industriels de l'armement, premièrement, ont une responsabilité au travers de la loi devoir de vigilance, qui était adoptée en mars 2017, d'indiquer dans leur rapport de vigilance les outils qu'elles mettent en place pour éviter que leurs armements ne contribuent à des violations du droit international. Et la licence d'exportation qui est accordée par le gouvernement n'exonère en rien les industriels de leur responsabilité pénale. C'est pour ça que nous avons saisi la Cour pénale internationale en novembre 2019, concernant d'ailleurs les fournitures de Thales, de Dassault et de MBDA. Bon. À destination de l'Arabie Saoudite et des Émirats arabes.
Alors, on va abonder dans votre sens des traités de non-prolifération ou de désarmement. Où en sommes-nous, chère Anna ?
Eh bien, en 2010, les deux grandes puissances que sont les États-Unis et la Russie ont signé un accord portant sur le désarmement nucléaire, le traité New START, par l'intermédiaire de Barack Obama et Dmitri Medvedev. Alors, l'enjeu était de taille quand on sait que ces deux puissances détiennent à elles seules 90% des armes nucléaires dans le monde. Alors, que dit ce traité ? Eh bien, dans les faits, le déploiement d'armes nucléaires stratégiques, comme la bombe Hiroshima, est limité à 1550 ogives et 800 lanceurs et bombardiers lourds pour chacune des puissances. En 2021, tout juste un an avant le début du conflit ukrainien, les présidents Joe Biden et Vladimir Poutine ont prorogé la validité de ce traité pour une période de 5 années supplémentaires, ce que Donald Trump refusait jusqu'alors. Mais Moscou aurait entre-temps modernisé un arsenal conséquent d'armes nucléaires tactiques, cette fois-ci, plus petite en charge explosive qu'une arme nucléaire stratégique, avec une portée inférieure à 5500 km, et capable de frapper des cibles militaires sur les champs de bataille, ceci dans le but d'accentuer